liberté et soumission dans l'Église. Je ne veux pas, je veux quand même arriver à vos attentes, mais je dois vous dire tout de suite que je ne suis pas un homme à réponse. Je n'ai pas toutes les réponses. J'en avais beaucoup plus il y a 35 ans que maintenant. Et avec l'âge, je me rends compte que j'ai beaucoup moins de réponses. Mais ce n'est pas à dire que je suis un peu mou dans mes convictions, loin de cela. Mais je me rends compte que les réponses toutes faites ne sont pas toujours très satisfaisantes. Donc, nous allons aborder ce sujet aujourd'hui de la liberté de l'enfant de Dieu, demain plutôt de la soumission, que je vais traiter non pas en tant que sujet proprement dit, mais dans le contexte de l'Église locale. Je ne vais pas aborder simplement la soumission, qu'est-ce que cela veut dire, mais pour moi, ça se passe dans le contexte de l'Église et nous allons aborder cela d'un point de vue du chrétien qui construit sa vie dans l'Église locale. Donc, Marc a déjà lu deux versets ou deux textes dans Galates 1 qui avaient été proposés et j'aimerais lire aussi dans Jean chapitre 8 des paroles de Jésus qui sont bien connues. Jean chapitre 8, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Je ne vais pas commenter ce verset maintenant, sauf pour dire que c'est dans le contexte de celui qui demeure dans la parole de Jésus, qui est son disciple, qui connaîtra la vérité, et la vérité, dit Jésus, vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes de la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Dis-tu, vous deviendrez libre? Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure pour toujours. Si donc le fils vous rend libre, vous serez réellement libre. On va prier le Seigneur avant d'aborder ce message. Notre Père Céleste, je te remercie parce que tu nous as réunis ce week-end pour des moments de partage et de communion fraternelle. Des moments où nous allons vraiment nous réjouir ensemble. Et nous sommes là aussi autour de ta parole, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là. Et tu sais, Seigneur, combien je compte sur toi aujourd'hui pour que tu m'aides. Tu sais que ce sujet n'est pas des plus faciles pour moi. Tu sais que je l'ai travaillé avec parfois une certaine frustration, avec une certaine crainte, mais je te laisse cette frustration et cette crainte pour que toi, tu viennes par ton esprit et que tu présides tout ce qui sera dit et fait pendant ce week-end et surtout pendant le moment qui est devant nous. Seigneur, merci. Ouvre nos oreilles, nos yeux, pas simplement physiques, mais spirituels, pour que nous prenions vraiment en nous cette parole, pour que le Saint-Esprit l'applique. Tu sais à quel point j'ai besoin moi aussi de cette parole. Et que tu m'aides aussi à être ton porte-parole aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. N'ai pas demandé, Marc, combien de temps dans ton esprit tu avais alloué à ce moment. Enfin, je ne sais pas.
Oh, on est libre. Hein.
On est libre. Dans la liberté. Bon, j'essaierai quand même de ne pas... de ne pas laisser cette liberté devenir un exercice dans la chair. De temps en temps, et c'est souvent dans une discussion avec un jeune chrétien, on me pose une certaine question qui est non seulement intéressante, mais révélatrice. Cette question, c'est jusqu'où puis-je aller dans tel ou tel domaine sans tomber dans le péché? Où est-ce que je peux aller sans, disons, tomber dans le précipice du péché? Ou pour le dire autrement, quelles sont les limites de ma liberté en Christ? Quand la question m'est posée par un jeune, c'est souvent, il s'agit souvent de relations garçon-fille. Bon, je vous le dis comme ça. Et c'est vrai. Et moi, je me pose cette question. Parce que parfois, j'ai envie de faire quelque chose. Je donne un exemple très très banal. Bon, on décide d'aller sortir au cinéma. Alors, je regarde la liste de ceux qui passent ce jour-là, et je vois un film et je me dis mais bon, j'aimerais bien voir ce film, mais il y a peut-être quelque chose là-dedans. Et je ne suis pas très étroit hein, dans cela, mais est-ce que ça va être pour mon bien? Ça va être modifié ou est-ce que ça va me faire du mal? Est-ce que j'ai le droit en tant que chrétien d'aller voir tel ou tel film? Je dois dire que je suis... Parfois, je se dis, mais écoute, David, il ne faut pas que tu parles de certains films dans... Parce que dans le monde évangélique, hein, ils ne vont pas comprendre. Bon, ben, je ne pense pas que je sois de ceux qui me regardent de films qui ne sont pas dignes de l'enfant de Dieu. Peut-être que c'est un peu mon côté un petit peu naïf. Mais je me pose la question, jusqu'où puis-je aller et rester quand même dans la limite de ce que le Seigneur attend de moi? C'est pas toujours comme ça que je pose la question, mais cette question m'arrive. Je le dis simplement parce que je veux que vous sachiez que je ne suis pas un extraterrestre, je suis un être humain avec les pieds sur terre et je dois faire face aux mêmes questions auxquelles vous faites face dans votre vie. Mais malheureusement, la question, quelle que soit sa nature, vient le plus souvent non pas d'un désir de plaire au Seigneur, mais du souhait de ne pas attirer sa condamnation. Ce n'est pas « qu'est-ce que je vais faire pour plaire au Seigneur ?» mais « qu'est-ce que, jusqu'où puis-je aller sans être condamné par le Seigneur ?» Ce n'est peut-être pas une bonne référence. Et je pense que tous nous sommes susceptibles de tomber dans ce piège, de vouloir pousser les limites aussi loin que possible, tout en évitant de pécher. Et cette tendance trahit sans doute une mauvaise conception de ce que c'est que la véritable liberté de l'enfant de Dieu. Alors, comment concevoir la liberté que Dieu nous donne, à nous, ses enfants? Et il nous donne une grande liberté. Comment jouir pleinement de cette liberté dans une croissance spirituelle, authentique et épanouissante? Comment jouir de cette liberté dans le contexte de la communauté des croyants? Parce que l'exercice mon exercice de la liberté aura peut-être des conséquences sur mes frères et sœurs en Christ. Donc il faut que je tienne compte de cela aussi. Non pas que je sois dans un carcan et esclave de quelque chose parce que j'ai trop peur que telle ou telle personne puisse penser ceci ou cela. Mais il faut quand même penser à l'autre. J'ai grandi, comme certains le savent probablement, dans un contexte chrétien américain où les boissons alcoolisées étaient plutôt anathèmes. Je suis arrivé dans un pays où il y a de très bons vins et j'apprécie. Mais il m'a fallu du temps parce que je ne voulais pas, en m'adaptant à la culture française, offenser de très sincères chrétiens outre-Atlantique, y compris nos parents. Et je me souviens un jour, on était en tournée aux États-Unis, c'était la Saint-Valentin, vous savez ce que c'est, et nous sommes allés, Joyce et moi, manger dans un restaurant, un gentil restaurant, et je dis, oh là là, mais là, vraiment, prendre ce repas sans un verre de vin, c'est vraiment, vraiment dommage. Et je dis, Joyce, est-ce que je devrais, Joyce, qu'est-ce que tu penses? Ben, je ne sais pas. Je vous assure, j'ai regardé soigneusement autour de moi, dans ce restaurant, pour voir si jamais il y avait quelqu'un de l'église où j'ai grandi, où le vin est l'anathème. C'est pas parce que je voulais tricher ou quelque chose comme cela, j'étais convaincu que j'avais le droit de le faire, mais j'étais convaincu aussi que je n'avais pas le droit d'offenser un frère qui peut-être n'était pas arrivé au même stade que moi sur ce sujet-là. Alors, m'étant assuré qu'il y avait personne qui serait susceptible d'être offensé, j'ai commandé mon vin et je l'ai apprécié. Vous voyez donc cette liberté. Bon, mais j'ai même pas commencé mon message, hein, mais je suis toujours dans la réflexion. Mais ça se vit dans le contexte de nos relations aussi. Et ce sont des questions et d'autres encore que je me pose. Et je voudrais réfléchir avec vous cet après-midi sur le sujet merveilleux de la liberté glorieuse de l'enfant de Dieu. Je ne peux que gratter la surface de cette question si vaste et essentielle dans un survol très rapide et je risque même de sauter certaines parties de ce que j'ai sur le papier devant moi. La première chose que je voudrais dire en répondant à cette question, comment concevoir la liberté que Dieu nous donne à ses enfants et jouir pleinement de cette liberté, c'est que Dieu nous a créés pour vivre une liberté véritable et responsable. Dieu nous a créés pour la liberté. Alors, vous n'entendez peut-être pas toujours cela dans la bouche des chrétiens. Je ne sais pas trop l'enseignant de l'église de Villefranche-sur-Saône, mais je ne pense pas que Marc soit en désaccord avec cela. Mais nous avons été créés pour la liberté. Une liberté véritable, mais une liberté responsable. Et c'était le désir de Dieu pour nos premiers parents, Adam et Ève. Et cette liberté devait s'exercer dans le contexte des larges limites d'Éden. Et cette belle liberté accordée par Dieu devait les responsabiliser. La liberté nous responsabilise. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et c'est très important de saisir cela. Mais l'homme et la femme, par un acte irresponsable, justement, sont tombés dans le péché, et désormais la race humaine vit dans l'esclavage, et non la liberté. La liberté, la belle liberté que Dieu voulait pour nous, ses créatures. Et cet esclavage se manifeste de plusieurs manières. L'homme est esclave de lui-même et des impulsions de sa nature déchue. L'homme est esclave d'une société qui l'exploite et qui lui impose des pressions et des contraintes que Dieu n'aurait jamais voulu. L'homme est esclave de l'air du temps et se laisse dominer inconsciemment et souvent involontairement par tout un ensemble d'influences qui l'entourent. On parle, par exemple, de l'éthique de la situation. Est-ce que ma conduite en tant que chrétien est conditionnée par les circonstances? Est-ce que la situation détermine mon éthique et mon comportement plutôt que la parole de Dieu? Nous avons des choses dans la parole de Dieu qui sont évidentes. Joyce et moi sommes en train de lire une certaine brochure donc dans notre culte le matin où l'écrivain a dit que tout mensonge est interdit. Enfin, en principe, je suis d'accord. Mais il cite l'exemple de quelqu'un qui vient chez vous avec un fusil qui cherche une certaine personne qui est chez vous et vous pose la question, est-ce qu'il est chez vous? Qu'est-ce que vous dites? Bon, la réponse de cette personne est oui, vous ne mentez pas. Et vous laissez ça entre les mains de Dieu. Bon, je ne sais pas si je suis arrivé encore à ce stade de pouvoir dire que je dirais ouvertement, oui, il est chez moi, entrez, enfin, je ne sais pas. Bon, mais en général, la situation ne détermine pas notre conduite. C'est la parole de Dieu qui nous dit comment nous devrions agir dans telle ou telle circonstance. Ou bien, il y a cette question affreuse que Satan a posée à Ève dans le jardin. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et ça sème le doute. Et il est toujours là aujourd'hui pour semer le doute dans nos esprits. Oh, est-ce que Dieu veut vraiment que vous viviez dans l'honnêteté, un peu de tricherie à l'école, c'est pas, ça fait pas de mal, après tout, il faut avoir décroché ce diplôme, un peu de laxisme dans les affaires, parce que il y a quand même des employés qui comptent sur vous. Vous savez, Satan, il peut arriver à justifier toutes sortes de péchés, en posant la question, est-ce que Dieu a réellement dit? Et nous devons savoir comment répondre. Satan sème le doute. Non, l'homme n'est pas libre. Il vit dans l'esclavage. Qu'il le veuille ou non, il vit dans l'esclavage. Par contre, le chrétien est par définition une personne libre. Je dirais, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais par définition, moi, le chrétien, est une personne libre. Enfin, tous les chrétiens ne vivent pas la liberté en Christ. Mais si nous prenons exactement ce que Dieu désire, ce qu'il veut pour le chrétien est une personne libre. Dans Galates 5:1, que nous avons entendu tout à l'heure, Paul déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Comment voulez-vous que nous ne soyons pas libres si Christ nous a libérés? Est-ce que si le cage est ouvert et l'oiseau désire sortir, j'ai vu des oiseaux qui ne voulaient pas sortir de la cage et avoir la liberté. Trop peur. Ou des oiseaux qui rentrent dans la cage après. Pas de liberté. Frère, il dit dans Galates 5:13, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, selon votre nature humaine pécheresse. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Dans Romains 8:21, Paul affirme que Dieu désire un jour nous libérer pour avoir part pleinement à ce qu'il appelle la liberté glorieuse de l'enfant de Dieu. Moi, j'aime bien cette phrase, la liberté glorieuse de l'enfant de Dieu. Moi, j'ai grandi dans une situation où on n'était pas libre dans mon église. On était dans un carcan. Il y avait toute une liste de « vous ne faites pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas, tu ne fais pas ça ». Tu ne fais pas, tu ne vas pas au cinéma, tu ne bois pas de vin, tu ne fumes pas. Bon, mais il y a certaines choses, mais je suis pas pour fumer parce que c'est pas bon pour la santé. Tu ne danseras pas, tu ne joueras pas aux cartes et ainsi de suite. Et ça définissait le bon chrétien. J'ai jamais vu la liste où il était dit, tu ne parleras pas mal de ton ami, tu ne créeras pas le désordre dans l'église, tu ne seras pas orgueilleux, et ainsi de suite. Beaucoup de choses dont il y a des questions dans la parole de Dieu, mais ce n'était pas sur la liste dans mon église. Bon, il n'y avait pas de liste comme ça, mais croyez-moi, c'était inculqué. Et en plus, j'ai fait une fac chrétienne où on devait signer un engagement à ne pas faire certaines de ces choses. Entre parenthèses, cette fac a changé aussi un peu le règlement depuis. Enfin, c'était le cas, c'était vraiment le milieu chrétien évangélique aux États-Unis aux années 50. Et j'ai grandi dans une situation légaliste où on n'était pas vraiment libre. Je ne pouvais pas vraiment utiliser ma matière grise sanctifiée pour prendre une décision. Et Dieu ne veut pas de cela. Il a dit, il nous appelle à la liberté glorieuse de l'enfant de Dieu. Et je crois que Dieu le désire pour son enfant. Non seulement dans l'au-delà, où il est question dans Romains 8, un jour, mais je pense que Dieu désire pour son enfant, aujourd'hui, une vraie liberté pour son enfant. À partir du moment où Dieu Mais sa vie en nous, il fait de nous une nouvelle création. Créé, dit Paul, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. Ce qui est triste, c'est que trop souvent, le chrétien ne vit pas la liberté qui est le fruit magnifique de sa relation avec Christ. Et pourquoi? D'abord, il ne comprend pas suffisamment ce que Dieu a déjà fait et ce qu'il veut faire encore pour lui. Pire, il ne vit même pas ce qu'il comprend. C'est triste quand nous trouvons des chrétiens qui ont compris quelque chose mais qui n'arrivent pas à vivre ce qu'ils ont compris. Moi, j'ai pas tout compris. Mais par la grâce de Dieu, j'essaie au moins de vivre ce que j'ai compris. Je n'y arrive pas toujours. Je ne suis pas parfait. Je suis un saint, je suis en train d'être sanctifié, mais je ne suis pas encore, j'ai pas encore mon auréole, hein. Donc, ce sera peut-être pour la vie à venir. Et Dieu est en train d'agir en moi. Mais j'essaie au moins de vivre ce que je comprends. Ce chrétien n'est peut-être pas suffisamment imprégné de l'amour de Dieu et de la vérité de Dieu qui rend libre. Dans un mot, bien que né de nouveau, l'enfant de Dieu a tendance à se débrouiller seul. Oui, Dieu est mon sauveur, Jésus m'a sauvé de mes péchés et puis maintenant je me débrouille. Ben non, où est-ce que vous trouvez ça dans la Bible? On ne se débrouille pas seul lorsque Jésus est dans sa vie. Oui, on a une pensée occasionnelle pour Dieu, surtout quand ça va mal, n'est-ce pas? Et comme Paul a averti les Galates, ce chrétien se remet de nouveau sous le joug de l'esclavage. Il ne jouit pas de l'énorme richesse de sa relation avec Dieu, et surtout pas de la liberté de l'esclavage à sa nature humaine pécheresse, qu'on appelle la chair. Et ce n'est pas cela la relation que Dieu a voulu avec son enfant. Dieu veut des enfants qui l'aiment librement et qui vivent librement leur amour pour lui. Dieu nous a créés, je résume ce que j'ai dit au début, Dieu nous a créés pour vivre une liberté véritable et responsable. Mais l'enfant de Dieu choisit trop souvent sa propre voie et ainsi il reste esclave. Le deuxième point que j'aimerais soulever est que Dieu a pourtant Dieu a fait, tout fait pour libérer l'homme de son esclavage. Nous avons lu dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Verset 36, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Comment? Je voudrais simplement rappeler très rapidement ce que Jésus a fait. Et ça va être trop rapide, j'en suis sûr, pour vraiment assimiler. Vous le savez, certains le savent déjà. Si c'est un problème pour vous, je serai bien d'accord pour vous envoyer mes notes par email. C'est pas un problème. Vous laissez votre adresse parce que je vais passer rapidement. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? D'abord, il nous pardonne et nous déclare juste devant Dieu. Cela, la Bible appelle la justification. Je ne vais pas employer de grands mots, hein, ne vous inquiétez pas. Bon. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Ça veut dire que Dieu nous regarde maintenant comme des personnes justes, comme des personnes qui donc il a enlevé les péchés, donc il n'a pas la même vue sur nous. Nous sommes justes devant lui. C'est la justification. Et la justification passe par une conversion. La conversion, nous savons, est deux choses, la repentance de nos péchés et la foi en Christ et dans son œuvre. Je me suis converti quand je me suis repenti de mes péchés, pas quand j'ai dit, oh là là, c'était mal, bon, ben, excuse-moi Seigneur, mais non, quand j'ai dit non, j'ai horreur de ce péché et je m'en repens. Et je mets ma confiance en Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. C'est un véritable engagement. Il n'y a pas de justification sans engagement. J'ai grandi aussi dans une culture chrétienne où il suffisait de lever la main pour être sauvé. Bah, c'est très facile de lever la main, surtout quand on est enfant. Un jour, j'ai rencontré une jeune femme. C'était pendant, après mes années de fac de théologie. Et au bout de quelques mois de sortie ensemble, j'ai commencé à avoir une véritable affection pour cette femme. Et un jour, je lui ai proposé de m'épouser. Elle a dit oui à mon grand bonheur. Vous savez, nous étions fiancés, les fiançailles étaient officielles, mais il n'y avait pas encore l'engagement que Dieu attendait. Et un an après, nous nous sommes engagés devant Dieu par des promesses. Nous nous sommes engagés solennellement devant Dieu et devant témoins. Et là, à ce moment-là, nous étions vraiment mari et femme. Il y a trop de chrétiens qui lèvent un peu la main pour dire « Oui, je veux Jésus, je veux son salut, etc. » Et puis, de temps en temps, il y a un petit quelque chose dans le cœur, un petit pincement d'affection peut-être pour le Seigneur. Mais on continue son chemin, on continue à vivre plus ou moins comme dans le passé. Je ne veux pas mettre en doute le salut de qui que ce soit, mais je vous dis tout simplement que la justification est une affaire d'engagement. C'est engagement sans laquelle on n'est pas un véritable enfant de Dieu. Parce que le résultat de la conversion est une naissance, une nouvelle naissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu met sa vie en nous et nous sommes toujours la même personne. David Dixon, ça remonte très loin maintenant, j'avais 9 ans quand j'ai accepté Jésus. Mais à ce moment-là, Dieu a commencé une vie en moi. C'était le 22 septembre 1946. Et depuis, cette vie continue, cette vie s'embellit, cette vie s'approfondit, cette vie rajeunit. Ose dire que je suis de plus en plus jeune avec le Seigneur parce que, enfin, même si le corps physique, comme dit Paul, est en train d'arriver à une défaillance physique, ah non, ce corps, cette nouvelle vie en nous se renouvelle de jour en jour. Dieu est un grand compensateur. Et quand le corps commence à s'affaiblir, cette nouvelle vie qui est en nous est en train de se rajeunir. Et c'est formidable. Donc, le résultat de la conversion est une nouvelle naissance. Et dans la justification, par la foi, Dieu a accompli plusieurs choses plus merveilleuses les unes que les autres. Dieu nous rachète de notre vie d'esclavage au péché. Il nous arrache à l'esclavage. Il paye le prix, Jésus. Jésus se substitue à nous pour mourir à notre place et prendre la punition que nous méritons. Dieu nous pardonne, il efface nos péchés. Il les jette derrière son dos, il les jette au fond de la mer. Dieu ne reviendra plus jamais sur nos péchés. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je suis capable de dire à Joyce que, tu sais, c'est assez rare, quand même, c'est assez rare. Mais elle ne faute pas très souvent, hein, donc elle n'aime pas que je dise cela, parce que, je n'ai pas de raison à me plaindre, disons. Mais Dieu, il oublie. Il ne revient pas sur les péchés du passé. Satan revient sur nos péchés. Et il nous accuse de nouveau parce que c'est le grand accusateur. Dieu met sur notre compte pas moins que la justice de Christ. Il nous revêt de la justice de Christ. Et puis, Dieu nous réconcilie à lui-même. Réconcilier, c'est mettre en accord ce qui était en désaccord. Et nous sommes désormais en accord avec notre Père Céleste. Et tout cela, c'est la justification. Et c'est justement à cause de cela que Paul peut affirmer dans Romains 5, 1, « Maintenant que nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Si vous avez été justifié par la foi, vous avez la paix. Si vous n'avez la paix avec Dieu, il y a peut-être quelque chose qui cloche un peu. Bon, ben, c'est un autre sujet, je ne vais pas aborder cela maintenant. Mais en principe, nous avons la paix avec Dieu. Je ne vous cache pas que dans notre vie de couple, Joyce et moi avons eu des moments de dispute. Et moi, je n'ai pas toujours été le mari idéal. Et parfois, j'ai attristé Joyce. Et parfois, il fallait quitter la table où il y avait nos enfants et résoudre cela dans la chambre où ils n'entendraient pas, etc. Enfin, si vous avez été marié, vous savez ce que je veux dire. Mais après, c'est fini. On ne revient plus là-dessus. Et il y a la paix. La paix parce qu'on est en règle. Quand on n'est pas en règle, il n'y a pas la paix. Et le résultat de cet acte de Dieu, c'est que nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. C'est pour ça que nous sommes frères et sœurs, nous sommes dans la même famille. Nous avons une vie vraiment nouvelle, la paix avec Dieu, et ce qui est incroyable, nous avons la présence de Jésus-Christ en nous, avec toute la puissance de la divinité. Nous avons tout pleinement en lui, c'est Paul qui le dit aux Colossiens. Que vous avez Christ en vous. Vous avez toute la plénitude de la divinité en vous. Vous pensez que quand Jésus est venu dans votre vie, il est venu avec une partie de sa divinité? Il est venu avec tout ce qu'il est. Et vous avez tout pleinement en lui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, ces gens qui disent, oh, il me faut quelque chose de plus, il me faut une bénédiction de plus, il me faut quelque chose vraiment pour aller plus loin avec Dieu. Dieu vous a tout donné. Le problème, c'est que nous ne savons pas nous servir de cette richesse qu'il nous a donnée. C'est comme si quelqu'un vous donne un livret pour un compte en banque qui est, disons, à 10 millions d'euros. Et vous mangez des miettes. Et il y a des chrétiens qui ont un compte qui est sans limite et qui mangent des miettes. Parce qu'ils n'ont jamais compris qu'en Christ, ils ont tout. Il peut vivre tout en Christ. Mais la liberté de l'enfant de Dieu n'est pas simplement le résultat d'être juste devant Dieu, car Dieu nous a fait bien plus que cela. Il nous sanctifie aussi. Vous le savez sans doute que notre salut comporte trois volets. Il y a la justification, qui est un point précis dans notre parcours, c'est une naissance. Une naissance, en général, a lieu à un moment donné. Et c'est certifié, n'est-ce pas, dans l'état civil. Ma nouvelle naissance a eu lieu le 22 septembre 1946. Il y a des personnes qui ne savent pas quand ça s'est passé, mais ça, croyez-moi, vous êtes les nouveaux si vous avez accepté Jésus dans votre vie. Une naissance a eu lieu. Donc, et par la foi, je sais que je suis né de nouveau. Je sais qu'un jour, je serai avec le Seigneur et je serai glorifié. Je serai changé en ce que Dieu a toujours voulu que je sois. Et par la foi, j'accepte l'accomplissement final de mon salut quand je serai avec lui. C'est la glorification. Et nous n'avons pas trop de difficultés à accepter ces deux aspects de notre salut par la foi, la justification et la glorification. Mais il y a un troisième volet qui s'appelle la sanctification. C'est le salut vécu de jour en jour, une vie de progrès spirituel avec Dieu, dans laquelle nous ressemblons de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce troisième volet de notre salut dure jusqu'à la fin de notre vie. Croyez-vous que quand j'avais 9 ans et j'ai accepté Jésus dans ma vie, et je suis une nouvelle créature en lui, que j'étais tout ce que je suis maintenant, j'espère que j'ai fait un peu de progrès depuis. Et j'espère que dans les années à venir, je vais encore faire du progrès. Parce que la sanctification est un processus qui continue jusqu'au jour où nous serons avec le Seigneur. Ne vous inquiétez pas s'il y a encore du travail à faire en vous. C'est le cas de nous tous, si nous sommes honnêtes. Et cela, nous acceptons par la foi. C'est dans cette sanctification progressive que le chrétien commence à réaliser toute l'étendue sur la liberté glorieuse de l'enfant de Dieu. Quand j'avais 9 ans, je me rendais à peine compte de la liberté. Je n'avais pas de liberté en Christ. Maintenant, j'en ai, et je pense que dans un an ou deux ou trois, si je suis toujours là, je jouerai encore plus de cette liberté glorieuse de l'enfant de Dieu. C'est là où Dieu nous libère progressivement des contraintes de notre nature charnelle, qui est tout de même morte. Parce que Paul dit que notre nature charnelle est morte. Afin que nous vivions la liberté qu'il a toujours voulu pour son enfant dès la création. Malheureusement, trop de chrétiens ne jouissent pas ou très peu du progrès dans la sanctification. Et là, je vais sauter une partie de mon message, malheureusement, de pourquoi trop de chrétiens ne jouissent pas ou peu du progrès dans la sanctification. Mais je vous le dirai à part ou j'enverrai une vidéo, si vous voulez. Mon troisième point, c'est tout comme notre justification, notre sanctification est aussi par la foi. C'est un don de la grâce de Dieu. Nous croyons que nous sommes justifiés par la foi, pas de problème. Nous croyons qu'un jour nous serons avec le Seigneur glorifiés, pas de problème. Mais la sanctification, c'est aussi par la foi. Jean dit quelque chose dans sa première lettre, chapitre 5, versets 3 et 4, qui est un peu étonnant. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que vous trouvez que les commandements de Dieu ne sont pas un peu pénibles de temps en temps? Moi, si. Un peu. Moins qu'autrefois, mais un peu pénible parfois quand même. Et il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, parce que vous êtes né de Dieu, nous allons parler de la nouvelle naissance, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah. Mais je vous assure qu'il y a 2 jours, je n'ai pas triomphé du monde. Et j'ai passé une mauvaise journée. Et j'étais en train de préparer ces messages, en train de fignoler. Et je dis, oh là là, Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir parler de ça quand je suis un si piètre chrétien? Et vous savez, certains derrière moi étaient en train de dire Amen, Amen. Mais Dieu, enfin, son amour est absolument incroyable. Bah, j'avais presque l'impression, excusez-moi, je ne veux pas être trop sentimental, mais j'avais presque l'impression qu'il m'a pris dans ses bras et dit, écoute David, arrête ton char. Arrête. C'est pardonné. Ne laisse pas Satan mettre les bâtons dans les roues. Prépare-toi pour samedi et dimanche. Je suis avec toi. Non, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et finalement, j'ai triomphé après avoir trébuché. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Notre foi. Si nous allons vivre une vie dans la sanctification, qui est le deuxième volet de notre salut, c'est comme pour la première, le premier et le troisième volet, c'est par la foi. Par la foi, je crois que Dieu va m'aider à aller de l'avant. Parce qu'il a mis son esprit en moi, il a mis la présence de Jésus-Christ en moi. En lui, toute la puissance de ma divinité habite corporellement. Et vous avez tout en lui. Et ça, c'est par la foi. Donc, si vous voulez arriver à une vie dans la sanctification progressive, c'est par la foi. Cette foi est basée sur la connaissance de la vérité de Dieu. Et parfois, nous nous éloignons de cette vérité et nous laissons Satan nous souffler des choses qui ne sont pas vraies. Vous connaîtrez la vérité, dit Jésus, et cette vérité vous rendra libre. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Ce que Jésus a fait sur la croix nous libère du péché, de sa domination et de sa conséquence première qui est la mort. Paul dit aux Romains, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Mais tant de chrétiens n'ont pas cette liberté en Christ et vivent tous les jours l'expérience de Paul dans Romains 7, des hauts et des bas spirituels, et de conclure avec Paul, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Jésus a fait ce que nous ne pouvions jamais faire. Il est mort pour nous libérer de l'emprise du péché. Nous ne pouvons pas nous libérer de l'emprise du péché. N'essayez pas de le faire. Vous allez vous casser la figure. Voici la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est Dieu qui fait ce que nous ne pouvons pas faire. Et cette victoire est un don de Dieu, un don de la grâce de Dieu, et il faut la vivre par la foi. Cette nouvelle liberté de l'enfant de Dieu se voit dans bien des domaines de notre vie. Elle nous libère de certains complexes qui nous enfoncent depuis si longtemps. Et moi, j'en ai peut-être toujours un peu, mais beaucoup moins. Elle nous libère de certains sentiments qui sont le fruit de notre nature charnelle, la haine, la rancune, l'amertume, l'esprit de vengeance, l'insoumission à l'autorité et même de la susceptibilité. Et ça, c'est un grand truc pour moi parce que je suis susceptible, malheureusement, moins que par le passé. Mais Dieu a dû travailler cela parce que vivre dans la susceptibilité éternellement n'est pas la gloire de Dieu. Elle nous libère aussi, la liberté de l'enfant de Dieu, de certaines frustrations, de déceptions qui nous écrasent, de faillites ou de sentiments de faillite, de faux sentiments de culpabilité. Il ne nous libère pas des vrais sentiments de culpabilité. Si vous êtes coupable, vous avez le droit de vous sentir coupable. Au contraire, vous devriez vous sentir coupable. Mais pas de faux sentiments de culpabilité. Nous sommes libérés de cela. Et de toutes sortes de craintes. Il y a des personnes qui sont absolument mangées par des craintes, dévorées par des craintes. Elle nous libère surtout de l'emprise du péché dans notre vie. Mais on n'arrête pas les tentations. Rappelez-vous que la tentation n'est pas le péché. C'est quand on tombe dedans que ça devient péché. Non, les tentations nous guetteront toujours. Et pourquoi cette liberté? Parce que Dieu désire tant que son enfant jouisse d'une plénitude de vie dans tous les sens, dans tous les domaines. Il veut que vous viviez une vie qui est riche en lui. C'est pour cela aussi que toute la plénitude de Christ habite en vous et nous avons tout pleinement en lui. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage, dit Paul aux Galates. Et la liberté en Christ se vit au sein de l'Église, dans notre vie d'Église, comme j'ai dit tout à l'heure, avec nos frères et sœurs en Christ. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Oui, vous pouvez être un serviteur tout en étant libre. C'est l'un des paradoxes de la vie chrétienne. Mais cette liberté n'est jamais acquise une fois pour toutes. Nous ne sommes pas, hélas, constamment sur les sommets de la victoire. Si quelqu'un vous prêche qu'en tant que chrétien, vous devriez toujours, alléluia, victoire, il y a des chants que je n'aime pas parce que je ne vis pas ces chants. Je ne suis pas toujours sur le sommet de la victoire. Je suis une piètre chrétien, peut-être. Si vous avez le secret de cela, vous me direz, n'est-ce pas, parce que je n'ai pas encore appris. La liberté en Christ ne se vit pas par des formules qui garantissent le succès. Elle se renouvelle chaque jour dans notre relation avec Dieu. Une relation qui s'approfondit de jour en jour, car la victoire sur le péché et sur nous-mêmes est une affaire de tous les jours par la foi. Mon amour pour ma femme, ma relation avec elle, est une affaire de tous les jours. Et si je laissais une semaine, un mois ou plus passer sans renouveler l'expression de mon amour, je pense qu'à la longue, cet amour se refroidirait. Non, la vie avec le chrétien, la vie chrétienne, dans sa profondeur, est une vie de tous les jours. Paradoxalement, la véritable liberté de l'enfant de Dieu passe par un engagement sincère et total avec Dieu. On dirait, mais s'il y a engagement, on s'engage, on n'est pas libre. Ah. Mais l'engagement nous apporte une sécurité qui nous permet de jouir pleinement de la liberté. C'est lorsque nous sommes dans cet engagement, dans la sécurité, dans l'amour et dans la protection de Dieu, que nous pouvons vivre la liberté. Il y a des hommes qui disent, moi je suis libre, et je peux butiner, je peux aller d'une femme à une autre à mon gré. Je vous dis, ces hommes ne sont pas libres. Ces hommes sont esclaves de leur passion et de leur tendance charnelle à vivre une vie qui déplaît à Dieu. J'espère que ce ne sont pas des chrétiens. Mais l'homme qui est vraiment engagé avec sa femme a une pleine liberté avec sa femme. C'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Plus nous aimons Dieu, plus fort est notre engagement, plus nous pouvons reconnaître le péché et nous approprier la force pour le résister. C'est ça ce que fait l'engagement. Il nous aide à résister au péché. Voilà finalement un quatrième point, et j'aurai terminé. Excusez-moi, vous avez été très patient. Cette liberté glorieuse d'enfant de Dieu a des limites. Déjà en Éden, il y avait une limite à la liberté d'Adam et Ève, une seule, mais il y a des limites à cette glorieuse liberté de l'enfant de Dieu. Mais l'homme, dans sa nature pécheresse, à cause de sa nature déchue, depuis Adam et Ève, a dû s'imposer d'autres limites, des limites que Dieu n'aurait pas voulu au début. C'est pour cela que ma liberté s'arrête où votre liberté commence. Si j'avais un amour à 100%, j'aurais même pas besoin de penser à cela. Mais mon amour n'est pas si fort que cela, si parfait que cela. C'est pour cela que, pour notre bien, un gouvernement bienveillant doit imposer des limites à notre liberté. C'est pour cela aussi que je ne suis pas libre de vivre n'importe comment dans l'église locale. Nous sommes pécheurs et notre amour pour Dieu et pour les autres n'est pas parfait. Et c'est pour cela qu'il y a des limites à notre liberté. Et Dieu, parce que c'est un Dieu de grâce, nous demande, à l'intérieur de cette vaste liberté qu'il nous accorde, de respecter certaines limites. Et elles sont surtout deux. Nous ne sommes pas libres de pécher. C'est-à-dire d'offenser Dieu, ou plutôt d'attrister Dieu par des pensées, par des motivations, des actes qui trahissent une défaillance dans notre amour pour lui. Le péché, c'est finalement la démonstration d'un manque d'amour pour Dieu. C'est ça le péché. La démonstration d'un manque d'amour pour Dieu. Et cette limite devrait être évidente. Mais combien de fois avons-nous tendance à usurper une liberté que Dieu ne nous donne pas parce que nous ne voulons pas appeler le péché par son nom et comprendre sa gravité? Et le péché non confessé et non réglé affaiblit la vie de l'Église locale. Nous ne sommes pas libres de péché. Deuxième limite, nous ne sommes pas libres non plus d'offenser notre prochain. Que ce soit par des pensées, par des motivations, par des propos et par des actes qui sont la démonstration d'un manque d'amour ou d'égard pour lui. Là encore, nous sommes dans les limites de la liberté dans la vie de l'Église locale. C'est une vie motivée par l'amour du prochain. Jésus a résumé ces limites à notre liberté en les énonçant de manière très positive dans Matthieu 22, 37 à 39, verset que vous connaissez bien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est, si vous voulez, la première limite à votre liberté absolue. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Si vous suivez les deux commandements, le reste, vous n'aurez pas besoin de vous en occuper. Il n'est pas possible d'aimer votre prochain et de mentir à son sujet, à lui voler sa propriété, à être méchant avec lui de quelque manière que ce soit. Et la même chose pour Dieu, si nous avons un amour comme Dieu désire. Paul aussi situe les limites de notre liberté dans le contexte de l'amour. Le verset que nous avons lu, « Frère, vous avez été appelés à la liberté, etc. » Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque je regarde les limites à ma liberté du point de vue de l'amour, cela change tout dans mon attitude. Vous savez, nous, êtres humains, nous avons tendance à dire, ah mince, Dieu, il nous donne des contraintes, il nous donne des empêchements d'être heureux. Et ça, c'est la loi de Satan, purement et simplement. Et ça sort du jardin d'Éden. Ça change tout quand je regarde la liberté du point de vue de l'amour. Pourquoi ces limites? Parce que Dieu m'aime. Et il sait que c'est en suivant ses conseils que je serai heureux et épanoui. Il sait qu'en suivant les instincts de la nature humaine pécheresse, la chair, que je suis malheureux. Dieu n'est plus pour moi le méchant empêcheur de tourner en rond, le triste rabat-joie. Je l'aime et je veux vivre un amour profond avec lui parce que c'est cela le vrai bonheur. L'un c'est l'autre et ça ne marche pas. Et l'amour pour Dieu et pour mon prochain est le principe primordial qui est à la base de toutes mes relations. Là, j'ai terminé. J'aurais voulu aborder la question de la jouissance biblique de la liberté en Christ. C'est tellement riche. Il y a tellement de choses dans cette liberté que Dieu nous donne. Il y a des freins dans le chrétien qui empêchent de jouir aussi pleinement de cette liberté. Tout comme il y a des choses qui contribuent au développement de la liberté dans nos relations. Il y a aussi la question de la liberté que le chrétien peut vivre dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile de vivre dans le monde d'aujourd'hui et de vivre cette liberté de l'enfant de Dieu. Mais tout cela sera peut-être pour une autre fois. Ma prière est que chacun, nous puissions comprendre à quel point Dieu nous aime et désire notre plénitude, tout en vivant une grande liberté à l'intérieur des limites de sa bonne volonté pour nous. Que le Seigneur nous aide à comprendre et arriver à cela. Amen.